en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le lundi 5 décembre 2012, la Fondation Del Duca accueillit un colloque organisé par l'association Être Humain. Une association qui propose de faire intervenir plusieurs personnalités pour livrer leur analyse sur l'homme contemporain. Pour ce colloque, le thème retenu était « Naissance, émergence et manifestation de la conscience ». Dans cette retransmission, Canal Académie vous propose d'écouter Henri de Lumley, membre de l'Académie des sciences. Il a intitulé sa conférence « Les grandes étapes de l'évolution morphologique et culturelle de l'homme, émergence de la conscience ». Retrouvez tout de suite Henri de Lumley sur Canal Académie.
Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président, Madame Tonafon, je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce colloque qui est très intéressant. Et on m'a demandé de vous parler des grandes étapes de l'évolution morphologique et culturelle de l'homme pour essayer de savoir quand a émergé la conscience. Mais ça, c'est un grand point d'interrogation. Ce matin, on nous a dit qu'il n'y avait pas de bonne définition de la conscience, qu'il ne fallait pas en parler. Et pour nous, préhistoriens, paléontologues, nous ne pouvons pas faire des études du cerveau comme on le fait chez les animaux ou chez les êtres humains actuels. Et les seuls éléments qu'ils peuvent nous dire, c'est les éléments que l'on trouve dans les sites préhistoriques. Je pourrais vous dire quand même qu'un site préhistorique, en général, pourrait être considéré comme un disque dur. Il a conservé tout ce qui s'est passé sur le site, dans la grotte Totavel, dans la Conarago à Totavel, dans la grotte du Lazare à Nice, ou dans la grotte Choucoutienne en Chine, ou dans la grotte de Swartkrans en Afrique du Sud. On peut dire que la caverne a conservé l'image, l'histoire, elle a conservé dans sa mémoire tout ce qui s'est passé dans la caverne. Et le paléontologue, le préhistorien, peut l'interpréter en interrogeant ce remplissage de la caverne, qui est encore quelque sorte un disque dur. Et c'est par des fouilles bien conduites, mais aussi par des analyses en laboratoire, qu'on peut arriver à reconstituer le comportement et le mode de vie des hommes préhistoriques. Alors, je ne pourrais pas vous parler vraiment de l'évolution de la conscience, de l'apparition de la conscience, mais on peut dire que la conscience peut être liée à l'évolution de la cognition. Et l'évolution de la cognition a évolué par grands sauts culturels, par grands sauts. Et ce matin, on a parlé, l'un de ces sauts, bien sûr, c'est la bipédie. La bipédie, qui a permis la libération de la main, date de 7 millions d'années. Un crâne qui a été trouvé dans le nord du Tchad, que les paléontologues appellent Sahelanthropus tchadensis, mais qu'on appelle plus familièrement Toumaï, c'est-à-dire espoir de vie en langage local, était un primate bipède. Il n'est pas bien proche d'un homme actuel. Si vous regardez vos voisins ou vos voisines, ils ont un crâne bien différent. Ils n'avaient pas de front, un crâne très bas, l'absence totale de front, un gros bourrelet au-dessus d'orbite, une mandibule qui s'avance en avant du crâne. Et il a une capacité crânienne de l'ordre de 350 cm3, c'est-à-dire comparable au chimpanzé. Alors on pourrait se dire, est-ce que c'est un ancêtre du chimpanzé? Et certains l'ont pensé d'ailleurs. Mais en fait, si on le regarde de près, quand on l'étudie, on l'a reconstitué d'ailleurs, le trou occipital, le foramen maniope qui fait communiquer le cerveau avec la colonne vertébrale, est situé sous le crâne. Alors que chez les grands singes, chez les bonobos, chez les chimpanzés, il est situé légèrement en arrière. Alors que chez les hominidés, le trou occipital est situé sous le crâne parce qu'il est posé en équilibre au sommet de la colonne vertébrale. Et on peut dire que Sahelanthropus tchadensis était déjà un primate bipède et il est daté de 7 millions d'années. Il a été daté par l'évolution des faunes, par la biostratigraphie, mais il est daté aussi par d'autres méthodes comme les isotopes cosmogéniques, beryllium, aluminium. 7 millions d'années. Donc, nous savons que depuis 7 millions d'années, il y a un primate qui marche debout en équilibre sur ses membres postérieurs, que ses mains ont été libérées. C'est la première étape de l'évolution des hominidés. Alors, Sahelanthropus est considéré comme un hominidé, mais peut-être pas comme un homme. Marcher debout, c'est certes une condition nécessaire pour être un homme, mais peut-être pas une condition suffisante. Et tout à l'heure, vous me direz si marcher debout, ça suffit pour avoir de la conscience. Mais malheureusement, aucun préhistorien, aucun paléontologue n'a jamais découvert de conscience fossilisée. Donc c'est à partir de l'évolution cognitive de ces hominidés que nous allons essayer de comprendre où se situe la conscience. Une autre nouvelle étape va se situer, c'est la même étape si vous voulez, Sahelanthropus 7 millions d'années, mais il y a d'autres formes d'hominidés un peu plus récents, comme les australopithèques. Là je vous présente le crâne de l'homme de Sterkfontein, de l'hominidé de Sterkfontein, qui a été trouvé en Afrique du Sud. Il date de 3,5 millions d'années. Il a un front qui commence à se surélever, le crâne est un peu plus haut, le front est un peu oblique, il existe, il a toujours une grosse arcade au-dessus des orbites, il a toujours une face en avant, mais il a maintenant une capacité crânienne de 450 cm3. Alors on en a trouvé beaucoup, on a trouvé Australopithecus cadaba qui date de 5,5 millions d'années, Australopithecus aramis qui date de 4,5 millions d'années, et puis ce qu'on appelle Australopithecus africanus, il y a Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, il y a tout un faisceau de phylums parallèles qui vont se développer entre 7 millions d'années et 2 millions d'années. C'est l'émergence des Australopithèques. Et on sait bien qu'ils marchaient debout, parce qu'on a même des preuves matérielles dans un site qui est situé en Tanzanie, à l'est du Kilimandjaro, c'est le site de l'Étoile. Il y a des couches, des cendres volcaniques qui ont été datées par le rapport entre l'uranium, entre le potassium et l'argon, ou entre l'argon 39 et l'argon 40, qui permettent de dire que ces cendres volcaniques datent de 3 700 000 ans. Elles ont recouvert un sol où vous avez des empreintes de pas. Alors, ces hominidés ont une capacité crânienne qui va varier de 350 cm3 il y a 7 millions d'années à 450 cm3 vers 2 millions d'années. On peut dire que on n'a pas trouvé à ces formes d'hominidés des outils taillés, des outils aménagés. D'autre part, on peut dire que si l'on étudie, on peut faire un moulage de l'intérieur du crâne. Et si on fait un moulage de l'intérieur du crâne, le crâne étant posé sur le cerveau, il y a juste les méninges entre les deux, on a une bonne idée de la surface du cerveau. Et on peut voir que chez les Australopithèques, les aires du langage, comme l'aire de Broca ou l'aire de Wernicke, sont très très réduites. Et ils n'avaient certainement pas la possibilité d'avoir un langage articulé. D'autre part, le palais est très plat. La cavité buccale était relativement réduite. Et la langue n'avait pas la possibilité de se mouvoir pour émettre les sons. Et enfin, la base du crâne est horizontale et bien plate. Elle n'a pas commencé à se fléchir. Et le pharynx et larynx étaient encore très hauts. On peut dire qu'ils n'avaient pas la possibilité de parler, ils ne fabriquaient pas d'outils. Et d'autre part, leur alimentation, et c'est important de suivre l'évolution de l'alimentation, était essentiellement, peut-être occasionnellement, peut-être pas, de temps en temps ils pouvaient manger de la viande, mais était essentiellement végétarienne. Et l'étude des traces d'usure sur les dents jugales, les prémolaires et les molaires, les traces extérieures, indique le mouvement de bol alimentaire au cours des 3 dernières semaines. Et on peut dire qu'ils étaient essentiellement végétariens, car les stries d'usure sont horizontales ou obliques, alors que chez les mangeurs de viande, comme les Esquimaux, les stries sont verticales, alors que chez les Indiens qui ne mangent pas de viande, les stries sont obliques ou horizontales. Et ils étaient donc essentiellement végétariens. Donc, ils ne fabriquaient pas d'outils, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir un gâche articulé, ils avaient aussi un petit cerveau, si vous voulez, qui ne dépassait pas 450 cm3. Et d'autre part, on n'a jamais trouvé de localisation d'un habitat d'Australopithèque. On a trouvé, comme Lucie, par exemple, qui date de 3 100 000 ans, qui s'est noyée dans un lac, ou à Saint-Fontaine, ce crâne qui a été trouvé dans une tanière de carnivores. On n'a pas de localisation de l'habitat. Donc, pas de langage articulé, pas d'outils, végétarien, pas de localisation d'habitat. C'est la première étape de l'évolution, mais il marche debout. Et ils marchent debout, c'est une condition nécessaire pour être un homme, pas suffisante, et nous les appelons des hominidés. Une deuxième étape va se situer vers 2 500 000 ans. On peut même préciser 2 550 000 ans. Au milieu de ces différents rameaux, de ces différents phylums d'Australopithèque, qui vont se poursuivre jusqu'à 2 millions d'années, même un peu plus récemment, apparaît une nouvelle forme, plus évolué, qui a maintenant un cerveau qui dépasse 550 cm3 et qu'on a appelé l'Homo habilis. Il a un crâne un peu plus haut que le précédent, un front un peu moins fuyant, une arcade orbitaire qui est moins avant, la face est un peu moins en avant du crâne. Mais la capacité crânienne dépasse 550 cm3 et même parfois, comme l'Homo rudolfensis, qui est proche de l'Homo habilis, arrive à 650 cm3. Alors, pour la première fois, avec Homo habilis, si on fait un moulage de l'intérieur du crâne, on peut mettre en évidence l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, c'est-à-dire les aires de langage sont présentes. D'autre part, si on fait une coupe transversale du palais, le palais a une forme de U très accentuée, la cavité buccale est beaucoup plus grande pour permettre à la langue de se mouvoir à l'intérieur de la bouche. D'autre part, pour la première fois, la base du crâne va s'enrouler, va se fléchir autour d'un axe qu'on appelle axe vestibien, qui est l'axe qui passe par les oreilles. La face, au cours de l'évolution, va s'emboutir sous le crâne. L'occipital va s'emboutir sous le crâne. Le crâne va se raccourcir. Au cours de toute l'évolution humaine, la forme du crâne des hominidés va passer de la forme d'un ballon de rugby a la forme d'un ballon de football, très allongé, puis il devient de plus en plus rond. Parmi vous, ceux qui ont un crâne plus rond sont sûrement plus évolués. Et cet enroulement du crâne autour de l'axe fessier va entraîner la descente du pharynx et du larynx et la mise en place de la caisse de résonance pour émettre les sons articulés. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'homo habilis apparaît l'outil manufacturé, une sorte de hache primitive, c'est ce qu'on appelle un chopper. Cet outil a été trouvé entre deux couches de cendres volcaniques, dessous des couches de cendres volcaniques qui datent de 2 600 000 ans, au-dessus un lit de fosse tube volcanique qui date de 2 500 000 ans, on peut donc dire qu'il date de 2 550 000 ans, certains disent 2 600 000 ans parce qu'il est plus près des tubes volcaniques qui est situé au-dessous. L'outil, pour moi, et le propre de l'homme. Alors, c'est vrai que si vous interrogez des zoologistes, ils vont vous dire que les gorilles ont des outils, que les chimpanzés ont des outils. Dans mon laboratoire, j'ai quelques galets que m'a donné le professeur Grasset, qui étaient utilisés par des gorilles de la forêt centrafricaine. Alors, sur ces galets, en effet, on voit des stigmates d'écrasement. Alors, je vais vous inviter au bord de la Seine, sur une plage de galets, avec un sac de noix pour goûter, si vous voulez. Mais je n'aurais pas apporté de casse-noix. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un galet pour casser la noix. Vous n'aurez pas la prétention de dire que vous avez fabriqué un outil. Vous avez utilisé un objet pour une action immédiate. Alors que l'outil s'inscrit dans une chaîne opératoire pour un projet qui est plus loin, qui est dans l'avenir. Et je fais des fouilles dans un site sud de l'Éthiopie qui s'appelle Fejez, à 5 km de la frontière du Kenya, qui date un peu plus de 2 millions d'années. Et là, on peut vraiment étudier le comportement et le mode de vie de ces premiers hommes fabricants d'outils. Ils conçoivent un modèle. C'est l'émergence de la pensée conceptuelle en fonction d'un projet qui sera dans l'avenir. Et pour réaliser ce modèle, ils vont chercher de la matière première dans une rivière qui est à quelques centaines de mètres, à 400 mètres, en affluent du fleuve Omo. Ils ramassent des outils et ils font de la minéralogie. Dans la rivière, il y a 30% de galets de quartz. Dans les alluvions, 30% de galets de quartz, 30% de galets de granit, 30% de galets de schiste. Ils ramassent 95% de galets de quartz, donc ils font de la minéralogie. Dans n'importe quelle rivière, vous voyez des galets ronds ou des galets ovalaires. Et là, ils ramassent surtout des galets cubiques ou subparallélépipédiques. Donc ils font de la morphologie, de la minéralogie et de la morphologie. Puis ils ramassent ces galets, ils le transportent dans un habitat, car contrairement aux hôpitaux, ils ont des campements de base, ce qui, en doute, présuppose un partage des tâches entre les hommes et les femmes. Et il y a une stratégie de débitage élaborée avec des tailles, des enlèvements unipolaires, des enlèvements bipolaires, des manufaciaux, bifaciaux. Et à mon avis, il est difficile de se transmettre cette technique par la simple imitation. Et il faut un autre outil qui doit être le langage. Et certes, on n'a pas trouvé de parole fossile, comme on va trouver de conscience, mais pourquoi, s'ils avaient la possibilité de parler, s'en seraient-ils privés? Et ils fabriquent des outils en fonction d'un projet. Et ce projet, ils transportent l'outil qu'ils ont réalisé et qui réalise le modèle qu'ils avaient conçu, qui témoigne de l'émergence mensuelle, pour aller découper de la viande, car ils deviennent mangeurs de viande. Ce sont des mangeurs de viande, et ils sont essentiellement mangeurs de viande. Mais, bien qu'ils soient mangeurs de viande, ils ne sont pas chasseurs. Et ils vont récupérer de la viande au bord d'une rivière, au bord d'un lac, au bord d'un fleuve, d'une carcasse qui a été abandonnée par un grand carnivore. Parce qu'à cette époque-là, l'Afrique de l'Est se dessèche, la prairie remplace progressivement la forêt, les savanes deviennent de plus en plus importantes, et les grands troupeaux d'herbivores, les troupeaux d'antilopes, les troupeaux de zèbres, etc., deviennent de beaucoup plus abondants. Si bien que les grands carnivores s'en donnent à cœur joie. Le lion à dents de sabre, le Homotherium crenatidens, la panthère géante, Pantherion, Meganthereon, Meganthereon, abattent ces grands herbivores. Et il y a deux super prédateurs qui sont en compétition pour avoir accès à la carcasse, c'est la hyène géante, Pachycrocuta brevirostris, et un petit bonhomme, qui est l'Homo habilis, qui a 1,20 m de haut, un crâne qui dépasse 500 cm, qui est capable de fabriquer des outils, et qui amène des chopeurs pour casser les os pour prendre la moelle, sur ces carcasses abandonnées, ou de petits éclats, les éclats qui sont partis des chopeurs, pour racler la viande. Et alors on trouve autour d'un squelette d'éléphant, qui est souvent encore en connexion anatomique, d'un squelette d'hippopotame, d'un squelette de cerf, quoique le cerf, souvent, il est ramené sur leur habitat, découpé. On trouve des chopeurs, très peu, des petits éclats de silex, ils ne sont pas venus tout seuls, ils ont été apportés. Et on trouve des coprolites de hyènes. Donc, on voit très bien, l'Homo habilis est en compétition avec la hyène géante pour avoir accès à la carcasse et se procurer de la viande. Mais ces pauvres Homo habilis, Ils ont de la viande, quand ils restent, qu'est-ce qui reste sur la viande? Il n'y a plus de boyaux, il n'y a plus de foie, il n'y a plus de tripes, il reste un peu de viande sur les os, entre les côtes, etc., mais ils se contentent de viande. Mais, si vous voulez, la consommation de protéines, la consommation de plus importante, etc., a dû être un élément important dans le développement de la cognition. Et on peut dire que l'outil, la fabrication d'outils et la fabrication de la viande sont liés. On fabrique des outils pour manger de la viande. Quand on est capable de fabriquer des outils, on se met à manger de la viande, ou comme on veut manger de la viande, on fabrique des outils. L'apparition de la consommation de viande, pas exclusive, mais presque, est l'invention de l'outil. Alors, il y a un comportement sûrement différent, la localisation de l'habitat. On a des campements de base. Le site que je fouille à Figé, c'est un campement de base derrière une petite dune de sable de 80 mètres carrés, et ce qui implique peut-être un partage des tâches, les hommes faisant les travaux les plus durs, qui sont plus costauds, faire le charognage, et les femmes faisaient de la cueillette, car ils avaient besoin de toujours faire de cueillette pour se procurer des sucres. En faisant de la cueillette, on se procurait du sucre, en récupérant la viande, des protéines, et en cassant les os, la moelle, pour avoir des lipides. Ça, c'est une deuxième étape dans l'évolution de les hominidés, et c'est la première étape de l'évolution culturelle, qu'en inventant l'outil, l'homme a introduit dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire de la vie, une nouvelle dimension, qui est la dimension culturelle. Après, il y a une autre étape qui va se situer vers 1,5 million d'années en Afrique de l'Est. Je l'appelle l'émergence du sens de l'harmonie. Vers 1,5 million d'années, les hommes, un homo erectus, un autre type d'homme, il a un crâne maintenant plus haut, un front beaucoup moins fuyant, la face est en avant du crâne, mais moins en avant du crâne, et celui-là, il a une capacité crânienne de 1100 cm3, voire approximativement, vous avez 1400 cm3, mais les premiers homo erectus ont une capacité crânienne de 800 cm3. Et ce sont les premiers chasseurs. En effet, sur un sol d'occupation préhistorique, on n'a pas les mêmes répartitions des animaux. Chez les sols d'occupation des Homo habilis, on a des animaux de tous les âges. On n'a pas une dominance des adultes jeunes. Et les déchets culinaires d'un groupe de chasseurs, c'est une dominance des adultes jeunes. Dans un troupeau, il y a surtout des adultes jeunes. Chez un sol d'Homo habilis, il y a des jeunes, des adolescents, des adultes jeunes, des adultes, et beaucoup d'animaux très âgés, car c'est plus facile pour un carnivore même d'abattre un animal qui s'est éloigné du troupeau. Alors que là, on trouve une forte proportion d'adultes jeunes. C'est vraiment des dépouilles de chasseurs. Et en effet, les hommes deviennent des chasseurs. Alors, comme ils deviennent des chasseurs, d'abord, ils vont tuer un animal avec un épieu, etc. Ils vont tuer une antilope, un zèbre, en Europe, un cerf, un élan, etc. Et en chassant, ils ont accès à tout l'animal. Et ils vont avoir, pour la première fois, accès aux entrailles, aux tripes, au foie, d'où la consommation de vitamines, beaucoup plus de vitamines, la vitamine D, la vitamine B, etc. Et ils ont, chez les Homo erectus, il y a une très grande différence dans le squelette, avec des ossements beaucoup plus épais, beaucoup plus robustes, beaucoup plus lourds. C'est la différence. Les Homo habilis sont des ossements relativement grêles, alors que les Homo erectus ont des ossements beaucoup plus robustes, beaucoup plus épais, des fémurs beaucoup plus épais, etc. Alors, ces hommes, pour chasser, quand on est charognard, on a besoin juste d'un petit éclat, ou d'un chopper, pour caler les os, un petit éclat pour récupérer la viande. Là, ils ont besoin de grands couteaux. Alors, ils taillent des grands éclats, il y a des grands éclats qui ont de longs tranchants, ou ils inventent ce qu'on appelle le biface. Le biface est l'outil caractéristique des civilisations HLN portées par les Homo erectus. Alors, d'un grand éclat qui a un long tranchant, ou parfois ils inventent cet outil, qui est un outil biface, qu'on appelle un biface, qui présente, comme vous le voyez, une symétrie bilatérale et une symétrie bifaciale. Et parfois, d'ailleurs, la symétrie bilatérale et bifaciale est parfaite. Parfois même, ils choisissent des roches de belles couleurs, une cornéenne. Et quand elle est fraîche, qu'elle n'est pas altérée, quand il a ramassé dans les schistes albiens, a une couleur argentée. Alors qu'ils ont plein de quartz, ils allaient chercher spécialement ces roches. Et ce n'est pas parce que l'outil est parfaitement symétrique, parce qu'il est très soigné, parce qu'il est de belles couleurs, qu'il est plus fonctionnel. C'est déjà une recherche du sens de l'harmonie, une recherche de la beauté. C'est une nouvelle étape dans l'évolution humaine. C'est une nouvelle étape qui montre plus de cognition, peut-être un peu plus de conscience. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand j'ai parlé des Homo habilis, on a dit aussi que la conscience, j'ai entendu toutes les conversations, c'était aussi l'approche de l'autre, etc. Mais déjà chez les Homo habilis, chez ces premiers fabricants d'outils, il y avait une certaine solidarité entre les individus. Par exemple, on a trouvé en Géorgie, chez l'Homo georgicus, qui est un Homo habilis qui arrive en Europe vers 1,8 million, sur les pentes septentrionales, 5 individus, dont un vieillard édenté qui ne pouvait certainement plus mâcher. Il n'a plus une seule dent. Toutes les alvéoles sont cicatrisées, Et s'il avait survécu dans un contexte, dans un milieu hostile, un contexte difficile, il y avait certainement des membres de sa famille ou de son groupe qui mâchaient la viande pour lui. Alors après, une autre étape, on va continuer, une étape qui est très importante, elle se situe vers 400 000 ans. Vers 400 000 ans, pour la première fois, les hommes domestiquent le feu. Le feu a été domestiqué à la limite nord des zones tempérées chaudes de l'Eurasie, Choukoutienne en Chine, Tiramata à Nice, Vertes-sur-l'Ours en Hongrie, Ménez-Régan dans le Finistère, Bichespit en Angleterre. À la côte de l'Aragon, nous avons des couches dont l'âge va de 700 000 à 100 000 ans. Dans les dépôts qui ont compris entre 700 000 et 400 000 ans, pas de os brûlé, pas de charbon de bois, pas de cendres, pas de pierres éclatées par le feu. À partir de 400 000 ans, dans les couches plus hautes que 400 000 ans, on a beaucoup d'os brûlés, des charbons de bois, des cendres, quelques pierres éclatées par le feu. Et à Nice, on a un site extraordinaire où on a pu mettre en évidence, dans une couche de 400 000 ans, un foyer. On voit que ces foyers étaient allumés avec des brindilles. Et puis, surtout, des herbes marines, parce que les herbes marines ne se sont pas conservées, mais on trouve des fragments de lamellibranche, des fragments de volcurie, etc., qui montrent que c'était des foyers essentiellement entretenus avec les herbes d'une vasière côtière. Et le feu a été un formidable moteur d'homélisation, car il a permis à l'homme de s'éclairer et de pénétrer dans les grottes. Il a permis à l'homme de se chauffer et de conquérir pour la première fois les zones tempérées froides de la planète. Le feu a permis d'améliorer la fabrication des outils en faisant des épieuves à la pointe et durcies au feu. La viande est plus succulente quand elle est cuite, mais surtout, elle a éliminé les parasitoses, allongé l'espérance de vie. Et puis le feu est un facteur de convivialité, car autour du foyer, les chasseurs de Tiramata devaient se raconter des histoires, et au fur et à mesure que le temps s'était écoulé, le bison qu'ils avaient abattu, le rhinocéros qu'ils avaient abattu, ou l'éléphant qu'ils avaient abattu, devenait de plus en plus gros, de plus en plus de monstrueux, devenait comme une montagne, si vous voulez, le chasseur qu'ils avaient abattu devenait un héros. C'est à partir de 400 000 ans que les préhistoriens peuvent mettre en évidence des traditions culturelles régionales, des identités culturelles à l'échelle d'un territoire. Par exemple, l'Achelien du bassin du Latium, entre Rome et Naples, n'a rien à voir avec l'Achelien de la Vallée de la Somme, ou rien à voir avec l'Achelien des régions provençales. Après, le balbutiement de la pensée moïque. Alors ça, c'est une découverte extraordinaire qui montre quand même une nouvelle étape dans l'évolution culturelle de l'homme. Nous sommes en Espagne, dans la Sierra de Atapuerca, à l'entrée de la grotte de la Cueva Major. La Cueva Major, c'est un site qui est situé à 10 km au nord-est de Burgos, dans la Sierra de Atapuerca. Là où on peut pénétrer dans cette grotte, et à 400 mètres de l'entrée, après avoir passé deux châtières, on arrive dans l'entrée d'un aven qui a 15 mètres de hauteur, avec des parois en surplomb, des parois inclinées. On ne peut pas l'escalader, on ne peut pas descendre. Hein. Et au fond, on a été trouvé 3500 restes d'Homo erectus européen, qu'on appelle les Homo heidelbergensis. 3500 restes. Ces 3500 ossements ne correspondent qu'à 31 individus. Et les ossements sont entiers, c'est-à-dire que les gens qui sont tombés au fond de l'aven ne sont pas tombés de leur vivant. Les os se seraient cassés. Alors, il y a des os cassés, mais par le poids des terres, car un os cassé sur le vivant et a une cassure ondulante, lisse. C'est la cassure du skieur. Alors, on peut mettre en évidence que c'est des cadavres qui ont été jetés au fond de la veine. Quand on jette un individu dans un état cadavérique, il est comme dans un sac et les os ne se cassent pas. Il y a 31 individus qui ont été jetés, quelques enfants de 9 ans, 3 je crois, des jeunes dames de 15 ans, c'est l'âge des premiers accouchements, et les autres individus entre 18 et 25 ans. Et puis, il y a un individu de 30 ans sur 31 individus. Ça donne une bonne idée de la population. Mais pas d'ossements. Dans un site préhistorique, en plein d'ossements, il n'y a pas d'ossements d'animaux, de boucotins, de chevaux, de cerfs. Pas d'outils taillés, même pas un éclat, sauf une pièce magnifique, un magnifique biface, qui présente une magnifique symétrie bilatérale, une magnifique symétrie bilatérale, qui est taillée dans un quartzite rouge qui vient de 60 km, qui a été très soigné et qui n'a jamais servi. Les arêtes sont très lisses, non ? Pas de traces d'usure. Et il y a même des petites retouches sur le bord qui sont en fait par percussion, qui ne se sont pas détachées. Si on appuie à peine, elles se détachent. Donc, c'est un objet qui a été jeté dans ce lieu. C'est manifestement une offrande funéraire il y a 300 000 ans. Je dis que c'est les premiers balbutiements de la pensée symbolique. Et puis, alors, l'aménagement inspirant, nous sommes dans le grotte du Lazavanis, on voit que l'homme va organiser son habitat. Alors, je voudrais passer maintenant à une autre étape, c'est la naissance de l'angoisse métaphysique avec l'homme de Néandertal. L'homme Néandertal est un nouvel hominidé, mais qui dérive directement des Homo erectus. On peut dire que l'homme de Néandertal correspond à l'évolution ultime de l'évolution des Homo erectus. Alors, il a un crâne maintenant comparable à celle de l'homme moderne, qui dépasse la moyenne de l'homme moderne, mais qui est quand même dans la marge de variation des Homo modernes. Mais il a toujours un front fuyant, un boule au-dessus des orbites, La mandibule est moins fuyante, mais il n'y a pas encore de menton. C'est l'homme de Néandertal qui a vécu en Europe entre 120 000 et 35 000 ans. Et il est le premier à enterrer ses morts. Et la sépulture est ce qui est très important dans l'évolution humaine. L'homme refuse la mort. Il s'interroge sur sa place dans l'histoire de l'univers et dans la vie. Il refuse la mort, il veut poursuivre sa route dans l'au-delà. Bon, c'est la naissance de l'angoisse métaphysique, l'émergence de la pensée religieuse, une autre étape dans l'évolution culturelle de l'homme et une autre étape dans le développement de la cognition. Et sans doute plus de conscience. Mais qu'est-ce que la conscience ? Et puis l'explosion de la sensibilité symbolique. Alors c'est avec l'homme moderne. Alors regardez vos voisins et vos voisines, ils ont une paroi verticale au-dessus des orbites, comme monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur François Legault. Et vous voyez, cette dame lui ressemble. Hein, pour la première fois, vous avez une paroi verticale des orbites qu'on appelle le front. Et on va dire que mademoiselle Tournafond a un beau front. Mais ce n'est pas le front qui compte, c'est ce qui est derrière le front. Derrière le front, il y a les lobes frontaux du cerveau dont nous avons parlé ce matin, qui sont le siège, monsieur Prochet en a parlé, c'est le siège de la pensée associative. Et d'où l'explosion de la pensée symbolique il y a 35 000 ans. Alors je vois que cette dame a un joli collier, mais madame, le collier, ça ne sert à rien. C'est purement symbolique. Et en effet, pour les premières fois, ils inventent la parure. Et puis, se développe l'art pariétal, l'art mobilier. Et puis, c'est l'époque où l'homme invente la musique, 30 000 ans. On a trouvé, par exemple, à Hohfels, en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, une flûte en os d'oiseau, taillée dans un radius de vautour, avec des perforations. D'ailleurs, un collègue, appelé Henri Connard, a refait une partition là-dessus. Et puis alors, vers 7000 ans avant notre ère, c'est les premiers peuples agriculteurs et pasteurs qui, pour rompre l'équilibre avec la nature, ils ne vivent plus simplement de cueillette, de chasse et de pêche, mais ils deviennent producteurs de nourriture, agriculteurs et pasteurs. C'est la consommation de la farine en quantité. Ça apparaît en Anatolie, avec la culture du blé, de l'orge, des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les fesses. Ça apparaît à la même époque, vers le 8e millénaire, 7e millénaire, en Afrique subsaharienne, au Tchad, avec la culture du mil. Ça apparaît à la même époque en Thaïlande ou dans le sud de la Chine, avec la culture du riz. À la même époque en Chine du Nord, avec la culture du millet. À la même époque en Amérique centrale, avec la culture de la pastèque, de la courge et du maïs. Il s'installe, ce sont les premiers villages, avec une nation d'hierarchie, il y a des métiers. Le cultivateur qui cultive le blé, le berger qui garde les moutons, la potière qui invente la céramique pour conserver les laitages ou les céréales, le meunier qui écrase le grain, l'ingénieur pour faire des canaux pour irriguer les terres. Mais alors il faut un chef, alors, les premiers chefs. Et puis si les chefs doivent être obéis, il faut des soldats. Et puis il faut des prêtres pour parler avec les dieux, pour qu'il pleuve au bon moment. C'est une nouvelle étape dans l'aventure culturelle de l'homme. Et puis les premiers idéogrammes de notre histoire, l'écriture d'écriture, qui date de 3300 avant notre ère, la plus vieille écriture date de 3300 avant notre ère, c'est l'écriture de Sumer entre le Tigre et l'Euphrate, qui permet de transmettre un message à travers le temps et à travers l'espace, dès 3300 avant notre ère. C'est l'écriture idéographique égyptienne, vers 3200 avant notre ère, avec les idéogrammes, les hiéroglyphes égyptiens, dans la vallée du Nil. Mais aussi, on ne le sait pas assez, c'est dans le sud de la France, à 80 km d'Ornice, dans le vallée de Mont-Bégaud, dans la vallée Merveille, par exemple. Certains d'entre vous doivent connaître la vallée Merveille, où il y a des gravures qui datent de 3300 ans avant notre ère, où les hommes ont inscrit dans la pierre des symboles, des idéogrammes, qui nous transmettent les préoccupations économiques et les mythes cosmogoniques des premiers peuples métallurgiques, des âmes méridionales. Ce sont avec les écritures de Sumer, les hiéroglyphes, les plus anciennes écritures de l'histoire de l'humanité. Et puis aujourd'hui, nous pénétrons un nouveau sous-culturel, c'est la noosphère. C'est le monde d'aujourd'hui avec les Internet, les multimédias, etc. Vous voyez, on n'a pas trouvé de parole fossile, mais en suivant la cognition, l'évolution cognitive des hommes, on peut avoir une idée peut-être de l'émergence progressive de la conscience.
Canal Académie vous propose la retransmission de la conférence d'Henri Delumelet, membre de l'Académie des sciences, intitulée « Les grandes étapes de l'évolution morphologique et culturelle de l'homme, émergence de la conscience ». Cette conférence intervenait dans le cadre du colloque organisé par l'association Être Humain le 5 décembre 2012 à la Fondation Del Duca. Canal Académie vous propose d'écouter les autres conférences tenues lors de cette journée. Pour ce faire, rendez-vous sur le site canalacademy.com et entrez le mot « conscience » dans la barre de recherche. À bientôt sur Canal Académie pour d'autres retransmissions.